La gloire par Anton Tchekhov. Le voyageur de première classe, ayant achevé son dîner dans la gare, et légèrement gris, mit aussitôt s'étendre sur le lit de velours, s'allongea doucement et commença à sommeiller. Mais cela ne dura pas 5 minutes. Il lança des yeux langoureux sur son vis-à-vis, sourit et dit « Mon père, d'heureuse mémoire, aimait qu'après le dîner les femmes lui grattassent la plante des pieds. Je suis tout à fait comme lui, avec cette différence pourtant qu'après le dîner, je me fais chatouiller chaque fois, non la plante des pieds, mais la langue et l'imagination. J'aime, pécheur que je suis, à bavarder le ventre plein. Permettez-moi de causer avec vous, mais avec plaisir, acquiesça le vis-à-vis. Après un excellent dîner, il me suffit du moindre sujet pour qu'aussitôt me viennent en tête des idées profondes en diable. Par exemple, vous et moi avons vu, il n'y a qu'un instant, près du buffet, deux jeunes gens, et nous avons entendu comme... l'un d'eux félicitait l'autre de sa notoriété. « Je vous félicite, » disait-il, « vous êtes déjà en notoriété et commencez à conquérir la gloire. » À coup sûr, c'étaient des acteurs ou de microscopiques publicistes. Mais il ne s'agit pas de cela. Une question, mon cher monsieur, m'intéresse maintenant. À savoir, ce qu'on doit entendre par ce mot « gloire » ou « notoriété », qu'en pensez-vous? Pouchkine définissait la gloire un morceau brillant sur des haillons. Nous la comprenons tous comme Pouchkine, c'est-à-dire plus ou moins subjectivement, mais personne n'a encore fourni une définition claire et logique de ce mot. Je donnerais cher pour une telle définition. Mais en quoi cela vous est-il nécessaire? Voyez-vous, si nous savions ce que c'est que la gloire, peut-être serions-nous certains et capables de l'acquérir. Je dois vous dire, cher monsieur, que quand j'étais plus jeune, j'ai aspiré de toutes les fibres de mon âme à la notoriété. La popularité était ma manie. Pour elle, j'ai étudié, travaillé, passé les nuits, souffert la faim et perdu la santé. Et pourtant, dans la mesure où j'en puis juger sans parti pris, j'avais tout ce qu'il faut pour l'atteindre. D'abord, de profession, je suis ingénieur. Pendant ma vie, j'ai construit en Russie une vingtaine de superbes ponts, élevé des aqueducs pour 3 villes et travaillé en Russie, en Angleterre, en Belgique. Secondement, j'écris beaucoup de traités spéciaux à ma partie. Enfin, mon cher monsieur, depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai eu un penchant pour la chimie. M'en occupant dans mes loisirs, j'ai découvert des applications pratiques de certains acides organiques, en sorte que vous trouverez mon nom dans tous les manuels étrangers de chimie. Toute ma vie fonctionnaire, j'ai atteint le grade de conseiller d'État et mes états de service sont excellents. Je ne veux pas abuser de votre attention en vous donnant la liste de mes services et travaux, je vous dirai seulement que j'ai fait beaucoup plus que tel devenu fameux. Et qu'en résulte-t-il? Voilà que je suis déjà vieux, prêt à mourir, et je ne suis pas plus connu que ce chien noir qui court sur le remblai. Qu'en savez-vous? Peut-être êtes-vous connu? Essayons tout de suite. Dites-moi, avez-vous par hasard entendu prononcer le nom de Krikonov? Le vis-à-vis leva les yeux au plafond, réfléchit et secoua négativement la tête. Non, je n'ai pas entendu parler, dit-il. C'est mon nom. Vous? Un intellectuel et un homme âgé n'avaient pas entendu une seule fois parler de moi, voilà une preuve irrécusable. Évidemment, tout en aspirant à la notoriété, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour l'atteindre, je n'ai pas employé les vrais moyens, et voulant saisir la gloire par la queue, je n'ai pas été de son côté. Quels sont donc les vrais moyens? Le diable seul les connaît. Vous me direz, le talent, le génie, l'originalité, tout cela n'est rien, mon cher monsieur, à côté de moi, ont vécu et achevé leur carrière des gens futiles, sans valeur, et même pitoyables, comparés à moi. Ils ont travaillé 1000 fois moins que moi, n'ont pas usé sang et eau, n'ont brillé par aucun talent, n'ont pas recherché la notoriété, et pourtant, voyez, leur nom se rencontre à chaque instant dans les journaux et les conversations. Si cela ne vous ennuie pas de m'écouter, je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années, j'établissais un pont dans la ville de K. Il faut vous dire que l'ennui est effrayant dans cet endroit pouilleux. S'il n'y eut des femmes et des cartes, j'en serais devenu fou. Je tâchais donc de me désennuyer avec une certaine chanteuse. Je ne sais pourquoi tous étaient en extase devant elle. Pour moi, c'était une nature ordinaire et commune comme il y en a tant. Cette fille était vaine, sotte et cupide. Sa vie ne consistait qu'en fonctions animales. Elle mangeait beaucoup, buvait de même, dormait jusqu'à 5 heures du soir et voilà tout. De profession, c'était une cocotte, mais quand on voulait en parler poliment, alors on l'appelait actrice et chanteuse. J'étais alors un pilier de théâtre, ne sachant pas voir les choses objectivement, et pour cela, ce jeu malhonnête sous le nom d'actrice me déplaisait. Le diable sait comme. S'appeler actrice ou même chanteuse, elle en avait certainement le droit, comme de s'intituler serrurière ou veuve de sous-officier. C'était un être absolument dénué de talent et de sentiment. À mon avis, elle chantait d'une façon déplorable. Tout le charme de son talent consistait dans sa science de lever à propos la jambe et de ne pas s'émouvoir si on venait la voir s'habiller dans sa loge. Elle jouait ordinairement des vaudevilles traduits de l'étranger avec chant et choisit de façon qu'elle puisse s'exhiber en costume d'homme bien collant. En un mot, poids. Elle n'avait de bien qu'un cou superbe et des jambes bien rondes. Je fis sa connaissance peu de temps avant la fin des travaux. Ici, je vous demande un peu d'attention. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Une fête eut lieu pour l'inauguration de la circulation sur le nouveau pont, c'est-à-dire bénédictions, discours, télégrammes, etc. Je m'agitais, je dois vous l'avouer, autour de ma production et ne savais comment m'arracher à mon émotion d'auteur. Le fait est passé et je n'ai pas à faire le modeste. Je puis bien vous dire que le pont me paraissait superbe. Ce n'était pas un pont mais un tableau, un régal. Pour moi, chaque solive respirait, chaque balustrade m'éblouissait. Le diable lui-même, me semblait-il, ne l'aurait pu faire plus artistiquement, vu surtout le peu d'argent mis à ma disposition pour cet ouvrage. J'étais particulièrement émotionné parce que toute la ville assistait à l'inauguration. Bon, pensais-je, à présent tous les regards du public vont se braquer sur moi. Où me cacher ? Ah, je m'inquiétais bien à tort, mon cher monsieur. Sauf les personnes officielles, nul ne tourna son attention vers moi. Ils étaient une foule sur le rivage, regardant le pont comme des moutons. Mais s'occuper de celui qui l'avait construit, ce n'était plus leur affaire. Tout à coup, la foule s'agita. Les visages sourirent, les épaules ondulèrent. Ils m'ont probablement aperçu, pensais-je. Ah bien oui, je pouvais fouiller mes poches. Je regardais. C'était ma chanteuse qui traversait la foule, escortée d'une foule de gandins. Derrière ce cortège couraient les regards du public. Un murmure confus de mille voix s'éleva. « C'est une telle. Elle est ravissante. Et quelle boucle d'oreille !» Alors, on me remarqua. Deux espèces de blancs-becs, en jugeant leurs grosses pommes d'Adam et à leur tête exiguë, me reluquèrent et m'examinèrent en tous sens en chuchotant. « C'est son amant. »« Qu'en dites-vous ? » Et une certaine sale figure en haute forme, avec une tronche mal rasée et un menton baveux, piétina longtemps autour de moi, finit par m'aborder et me dit « Vous connaissez cette dame qui est sur cette rive ? C'est une telle. » Sa voix défie toute critique et elle s'en sert à la perfection. Sa manière de jouer est tout à fait chic. « Ne pourriez-vous pas me dire, demandai-je à cette sale tête, qui a construit ce pont ? Vraiment, je n'en sais rien. Un ingénieur quelconque. « Et qui, je vous prie, a construit la cathédrale de notre ville ? Je ne puis pas vous le dire. » Je lui demandai encore quel était le meilleur professeur de K, qui éditait le courrier de K, et à toutes mes questions, la sale tête ne sut pas répondre. « Et dites-moi, s'il vous plaît, demandai-je pour terminer, avec qui vit cette chanteuse ? Avec un certain ingénieur Krikounov. Est-il vrai qu'elle porte une perruque ? C'est un mensonge !» dit la tête en colère, en me lançant en postillon. C'est un mensonge, une calomnie. Eh bien, mon cher monsieur, qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas dégoûtant ? Mais allons plus loin. Il n'y a plus maintenant de chanteurs ni de troubadours sur cette terre et la notoriété se fait exclusivement par les journaux. Le lendemain, après l'inauguration du pont, je saisis avec avidité le courrier local et cherche mon nom. Longtemps, je parcours des yeux les quatre pages et enfin, voilà, bravo, je me mets à lire. Hier, par un temps superbe, et devant un grand concours de public, en présence du gouverneur et des autres autorités, a eu lieu l'inauguration du pont nouvellement construit, etc. Mais vers la fin, Dieu me pardonne. À l'inauguration assistait, éclatante de beauté entre toutes, l'idole du public de K, notre talenteuse artiste une telle. Comme cela se conçoit, sa présence a fait sensation. L'étoile était habillée, etc. S'il y avait eu un seul mot sur moi, seulement un tout petit mot, c'était puéril, mais que voulez-vous ? J'en pleurais de rage. Je me consolais pourtant en réfléchissant que la province est bête, qu'il n'y a rien à lui demander. et que pour devenir illustre, il faut aller dans des centres intellectuels dans les capitales. Justement, à cette époque, à Pétersbourg se trouvait un de mes travaux, envoyé à un concours. La fin du concours approchait. Je quittais K et allais à Pétersbourg. Il faut vous dire que je ne suis pas un homme douillet, gourmand, ni d'un tempérament de hussard. Mais j'aime à ne rien me refuser. De K à Pétersbourg, la route est longue et, pour me désennuyer, j'ai pris un coupé séparé et Dame, la chanteuse. Durant tout le chemin, nous mangeâmes, bûmes du champagne. Nous arrivâmes donc dans le centre intellectuel, juste le jour même du concours, et j'eus la joie, mon cher monsieur, de fêter ma victoire. Mon travail obtint la première mention. Bravo! Le lendemain, j'allais sur la Nevski et achetais pour 14 copecs de journaux d'hiver. Je courus vers mon logis, m'allongeai sur le canapé et, dominant mon tremblement, me dépêchai de lire. Je parcours un journal, rien. Je parcours un second, pas un mot. Enfin, dans le quatrième, je trouve cette nouvelle. Hier est arrivée par l'express à Pétersbourg la fameuse artiste de province, une telle, suffisamment connue des pétersbourgeois par ses succès antérieurs sur la scène de tel club. Nous constatons avec plaisir que le climat du Sud n'a eu qu'une bonne influence sur notre célébrité, sa superbe présence de théâtre. Je ne me rappelle plus la suite. Beaucoup plus bas, sous cette nouvelle, en très petit caractère, était écrit « Hier, à tel concours, la première mention a été décernée à l'ingénieur Intel. » Rien que cela. Et de plus, on avait encore écorché mon nom. Au lieu de Krikounov, on avait imprimé Kirkounov. Voilà donc votre centre intellectuel. Et ce n'est pas tout. Quand, au bout du mois, je quittais Pétersbourg, tous les journaux, à qui mieux, parlait de notre incomparable divine talentueuse et louait ma maîtresse non plus par son nom de famille, mais par ses prénoms. Quelques années plus tard, j'allais à Moscou. J'étais appelé par une lettre autographe du maire de la ville pour une affaire dont les journaux de Moscou parlaient déjà depuis plus d'un siècle. Dans l'intervalle de mes travaux, je donnais, dans un des amphithéâtres, 5 conférences publiques au profit d'une bonne œuvre. Il semble que c'est suffisant pour être connu dans une ville, ne fût-ce que 3 jours. N'est-il pas vrai? Ah bien oui! Pas un journal de Moscou ne dit le moindre mot de moi. Des incendies, d'une opérette, des conseillers endormis, des marchands ivrognes, de tout cela on parlait, mais de mon affaire, de mes projets, de mes conférences, rien. Et le public est pareil. Je vais en tramway, tout le wagon est plein, des dames, des officiers, des étudiants, des étudiantes. On dit que le conseil a appelé un ingénieur pour tel ouvrage. Dis-je à mon voisin d'une voix si forte que tout le monde entend. « Connaissez-vous le nom de cet ingénieur ?» Le voisin secoue négativement la tête. Le reste du public me regarde rapidement et dans tous les yeux je lis « Je ne sais pas ». On dit que quelqu'un fait des conférences dans un certain amphithéâtre, dis-je encore au public pour engager la conversation. On dit que c'est intéressant. Personne ne bouge la tête. Il est visible que personne n'a entendu parler des conférences et que les dames ne soupçonnent même pas l'existence de la salle. Ceci ne serait encore rien, mais représentez-vous, cher monsieur. Soudain, le public se lève brusquement et se presse aux fenêtres. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Regardez, regardez, m'explique mon voisin. Vous voyez ce brunet qui passe en voiture? C'est le fameux coureur King. Et tout le wagon, s'engouant, parle des coureurs qui occupent à ce moment les esprits moscovites. Et j'apprends le nom, non seulement des étrangers, mais même des femmes de chambre russes qui courent chez Lentov. Je pourrais vous citer encore beaucoup d'autres exemples, mais ces deux-ci suffisent, je pense. Maintenant, admettons que je me trompe sur mon compte, que je ne sois qu'un hâbleur et une nullité. Mais à côté de moi, je pourrais vous montrer une foule de contemporains, gens remarquables par le talent et l'amour du travail, et pourtant morts inconnus. Tous ces navigateurs, chimistes, physiciens, mécaniciens, économistes russes, sont-ils populaires? Sont-ils connus de la masse lettrée? Les peintres, les sculpteurs, littérateurs russes. Un vieux chien de lettres, travailleur et talentueux, passe 33 ans dans les antichambres de rédaction, noirci, le diable sait combien de feuilles de papier, est jugé 20 fois pour diffamation et pourtant est inconnu en dehors de son groupe. Citez-moi un seul coryphée de notre littérature qui soit arrivé à la renommée avant qu'on ait appris qu'il s'était battu en duel, qu'il avait perdu la tête, qu'il avait été exilé ou qu'il ne jouait pas bien aux cartes. Le passager de première classe, dans son emballement, arracha son cigare de sa bouche et se leva. « Oui, poursuivit-il violemment. Et en parallèle avec ces hommes, je vous mets une centaine de chanteuses, d'acrobates et d'histrions de tout genre, connues déjà des enfants à la mamelle, oui. » La porte cria, un coup de vent entra, et dans le wagon pénétra une personne d'aspect rébarbatif, en haute forme et lunettes bleues. La personne examina la place, fronça le sourcil et s'en alla plus loin. « Savez-vous qui c'est ?» murmura une voix timide de l'autre bout du wagon. « C'est N.N., le fameux grec de Toula, qui a passé en jugement pour l'affaire de la banque Y. »«
Eh bien, » ricana le passager de première classe, « celui-ci connaît un tricheur de Toula.
Mais demandez-lui s'il connaît Semigratsky, Tchaïkovski ou le philosophe Soloviev. »
Alors il secoura la hure.
« Cochonnerie !» 3 minutes de silence se passèrent.
« Permettez-moi de vous demander à mon tour, » dit le vis-à-vis, en tout sautant, « connaissez-vous le nom de Pushkov ?»«
Pushkov, non, je ne connais pas. »«
C'est mon nom, » sourit le vis-à-vis modestement. « Donc, vous ne me connaissez pas. Je suis depuis 35 ans professeur d'une des universités russes, membre de l'Académie des sciences, auteur de plusieurs ouvrages. »
Le passager de première classe et le vis-à-vis se lancèrent un coup d'œil et se mirent à rire. Ainsi s'achève la gloire de Anton Tchekhov.